Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un peu plus de 11h sur Radion, c'est le retour de Wagon Livre, comme chaque samedi à pareille heure, avec un nouvel invité, c'est Frédéric R. Alors, le patronyme restera une consonne, Frédéric R, pour un ouvrage dont nous allons parler en cette fin de matinée sur Radion et qui a pour titre « Une vie pour comprendre ». Un grand bonjour Frédéric.
Bonjour Yannick.
Merci à vous donc d'être en cette fin de matinée devant notre micro. « Une vie pour comprendre », alors ce n'est pas une autobiographie et pourtant dans cet ouvrage il y a beaucoup d'éléments personnels. Dans un premier temps, plutôt que de lire ce que la quatrième de couverture offre comme information biographique sur vous, je vais vous demander de vous présenter un peu, j'allais dire de nous glisser votre carte de visite.
Oui, c'est avec plaisir. Alors comme vous le disiez à juste titre, oui, ce n'est pas une biographie car je n'ai pas souhaité que ce soit interprété en tant que tel, mais j'ai effectivement utilisé mon parcours de vie pour mettre en avant certains événements, certaines compréhensions au fil du temps, avec la volonté, puisque moi-même j'en ai pris conscience dans le temps, et j'ai réalisé que dans le passé, certains événements n'étaient pas du hasard, et par conséquent, j'ai souhaité que ce livre serve et que ces écrits servent en termes de compréhension pour que les lecteurs puissent eux-mêmes regarder dans le rétroviseur pour prendre conscience que certains événements de leur vie n'étaient pas forcément du hasard, mais que ça nécessitait pour eux de s'interroger et de chercher à comprendre.
En fait, c'est une réflexion sur soi, un retour en arrière. Je dirais que c'est surtout à l'âge de 50 ans qu'un certain nombre d'éléments ont pris vraiment du sens,
oui,
avec la maturité.
Oui, voilà, alors, la maturité tardive, on va dire. Mais effectivement, je crois que depuis tout petit, je me sentais différent. Il y avait quelque chose, il y avait des événements qui fait que j'étais un peu en marge. Voilà. Mais bon, l'éducation faisant, le quotidien faisant, le travail faisant ensuite, eh bien, on a forcément un peu de mal à vouloir s'avouer certaines choses. Donc, on continue à avancer, parfois un peu de manière forcée. Mais à un moment donné, il faut bien quand même regarder derrière. Encore une fois, je me répète, mais oui, c'est regarder derrière nous pour mieux comprendre et s'avouer certaines choses pour pouvoir se construire et réaliser qui nous sommes réellement, pourquoi nous avons vécu ce genre de choses, et puis faire un bilan positif, parce que Dieu merci, la vie, c'est, si on veut bien la tourner en tant que telle, c'est un bilan positif.
Et d'ailleurs, vous l'écrivez, l'écriture de cet ouvrage ne comporte aucune tristesse.
Absolument, absolument.
C'est pas le témoignage d'un homme dépité qui regretterait des pans entiers de son enfance, adolescence ou de sa vie même professionnelle, qui est d'ailleurs bien rempli,
oui,
après différentes
j'ai
expériences.
Vraiment ce bilan est de manière globale, que ce soit à titre privé et professionnel, pour moi est très constructif. On va parler de construction, en fait, hein. Puisque ce fil de vie, puisque c'est ainsi que je le nomme, quand je le regarde de près, à un moment donné, je me suis interrogé sur la vraie positivité. Mais justement, le fait d'avoir la faculté et l'humilité, parce que ça passe par l'humilité, de rabaisser un peu les épaules, eh bien, j'ai réalisé qu'en fait, tout ce que j'avais vécu, je devais le vivre pour pouvoir comprendre et évoluer tel que j'ai évolué, et en terminer par un bilan extrêmement constructif, en me disant que parce que j'ai vécu durant ces 60 premières années, on va s'arrêter à 60, eh bien, pour moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux, parce que ce sont des briques qui se sont mises les unes bien après les autres, dans le bon ordre, et puis, ben, les années qui me restent, je souhaite encore et encore continuer à construire et à comprendre, parce que le vrai fond de ce livre, c'est comprendre qui nous sommes, comprendre notre vie, comprendre pourquoi nous sommes là et là où nous devons aller, quelque part. Ça se définit plus doucement, mais on y va, tout doucement.
Je rappelle en effet le titre de votre texte, « Une vie pour comprendre », c'est aux éditions Sidney Laurent. Il me semble avoir oublié tout à l'heure de mentionner l'éditeur. Il y a un postulat qui arrive dès les premières lignes de votre texte, le fameux hasard n'existe pas. Vous ne croyez pas au hasard. Alors, il est vrai qu'au quotidien, on dit « Oh, c'est un hasard ». Pour vous, la notion de hasard, alors, vous la rejetez en bloc.
Aujourd'hui, oui.
Parce que vous semblez finalement montrer que dans la vie, les rencontres ou certains événements ne sont pas liés au hasard, sont envoyés parfois et qu'il y a des signes annonciateurs. Il faut nuancer.
Je reste très nuancé parce que ça reste une vision et une compréhension personnelle. Ensuite, chaque lecteur, chaque personne doit effectivement faire son propre bilan. Cette notion de hasard, quand on est plus jeune, on dit « quel heureux hasard ». C'est vraiment ce que nous entendons. Ou « c'était écrit ». Voilà, il y a beaucoup de choses assez, je dirais, réductrices, en fait, qui font que on réduit notre façon et notre vision des choses. Quand on regarde bien et quand on fait son propre bilan et qu'on a vécu suffisamment de choses pour pouvoir faire ce bilan, encore une fois, positif, eh bien, on peut vraiment réaliser, du moins, encore une fois, ça m'appartient, et si d'autres personnes et les lecteurs le perçoivent en tant que tel, eh bien, j'ai vraiment le sentiment que c'est une conjugaison. Une conjugaison entre ce que nous souhaitons, parce qu'en fait, nous souhaitons des choses, nous désirons des choses, avec certaines puissances, avec certaines volontés, et toute personne qui a souhaité très fort quelque chose a pu se rendre compte qu'à un moment donné, ça arrivait. Et puis, il y a les rencontres, comme vous dites, effectivement. Alors, l'interrogation que nous pouvons avoir, c'est à quel moment peut se faire cette conjugaison entre ce qui était écrit et ce que nous désirons. C'est l'objet de ma dernière peinture, qui est en quatrième de couverture, qui montre un peu cette conjugaison entre le céleste et le terrestre. Le terrestre, c'est nos souhaits, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous exprimons. Le céleste, c'est ce pourquoi nous sommes venus, là, qui nous guide, ce sont nos guides, et qui, à un moment donné, nous devons conjuguer ces deux voies pour aller, malgré tout, à un moment donné, là où nous devons aller, pour se réaliser. Voilà, la fameuse expression « se réaliser ». Et donc, tout ça, ça passe par un cheminant qui est quand même, tout de même très long. Dès lors, déjà long quand on prend soin de vouloir le comprendre. Voilà. Donc ça nécessite réellement beaucoup de recul, beaucoup d'humilité.
Et une réflexion sur soi. Absolument. C'est-à-dire tout de même une intelligence complice avec son existence, son passé, se comprendre. Vous l'avez bien dit, finalement, c'est le kaisu technon socratique. On revient à se connaître soi-même et analyser les éléments d'une vie qui est une sorte de mosaïque, un peu.
Oui, tout à fait. Le terme mosaïque est juste. C'est que on prend des éléments qui vont venir, effectivement, s'amonceler les uns après les autres. Alors, quand on parle du hasard ou une rencontre, nous évoquions tout à l'heure notre rencontre.
On peut en parler un tout petit peu, en fin de compte.
Était-ce un hasard?
L'été dernier, nous nous croisons à Vézelay. On échange. Votre épouse est également à vos côtés. Nous échangeons. Nous en venons à parler de la richesse, l'originalité, la beauté du site de la colline éternelle. Et puis, nous parlons de Jacqueline Kellen, donc que vous connaissez, dont vous avez lu les livres. Nous parlons des accords Toltec, et puis je vous dis que j'anime une émission littéraire sur l'antenne de Radionella. Vous me dites, j'ai un livre qui va sortir en 2022, et en fin de compte, était-ce un hasard? Comment, effectivement, analyser notre rencontre à Vézelay qui débouche sur cette émission diffusée en cette fin de matinée sur l'antenne de Radio.
Oui, mais c'est ça. Pour moi, ce sont les parcours de vie. Encore une fois, je vais reprendre un petit peu l'historique de l'écriture de ce livre, en fait. Je veux juste revenir un petit peu sur cet aspect-là pour effectivement développer sur notre rencontre et cet éventuel hasard. Mais ce livre, on appellera ça comme on veut, mais il m'a traversé l'esprit. À travers toutes mes évolutions, toutes mes compréhensions, un beau matin, je me suis dit, mais je comprends beaucoup de choses. je commence réellement à réaliser à quel point beaucoup de choses n'ont pas forcément été des hasards. Et je me suis dit, mais le jour où j'aurai de la liberté, du temps, je prendrai soin d'écrire tous ces événements, d'où je suis parti, là où je suis aujourd'hui. J'ai bien dit pas où je suis arrivé, là où je suis aujourd'hui, car je ne suis pas encore arrivé. Et à partir de là, je m'étais dit, voilà, j'écrirai ça. Voilà, j'en ai fait part à mon épouse, j'ai dit, voilà, l'idée. Ce n'est pas forcément mon idée. C'est peut-être aussi quelque part une guidance, comme je l'ai écrit dans mon livre.
Il faudra revenir sur ce terme de guidance qui déroute un peu.
Absolument, mais j'ai fait exprès. Et donc, voilà. Et cette idée, elle était restée là, voilà, dans un coin de ma tête, comme on dit si bien. Et puis, bon, le confinement est arrivé, où j'ai pu enfin m'apaiser, parce que malgré tout, c'était un moment donné où on n'a plus le choix que de se dire, on attend. Eh bien, voilà. Au bout d'un mois, j'ai commencé à dire, mais j'ai quelque chose d'important à faire. Et là, ce livre, je l'ai écrit d'un trait. D'ailleurs, tous les lecteurs que je connais et qui m'en font part après lecture me disent, il se lit d'un trait. Parce que, voilà, il a été écrit de la sorte, c'était, voilà, j'ai couché sur le papier, entre guillemets, donc en fait, tout ce qui me venait. Donc déjà, ce n'était pas forcément un hasard. Les peintures que je fais, et les quelques exemples de peintures que je
qui
fais...
Qui sont reproduites dans l'ouvrage.
Sont reproduites, ne sont pas non plus des fruits de hasard. Je me mets devant une toile, j'ai quelque chose, et je peins avec mes doigts, en 2 heures de temps, je fais un tableau. Voilà. Ils reproduisent ce qui me traverse l'esprit, en termes d'énergie, en termes de transmission, de donner aux autres, voilà, en l'occurrence. Et donc, pour revenir effectivement sur cette notion de hasard, de notre rencontre, puisque c'était l'objet donc, de cette approche, voilà, j'avais terminé ce livre, et de passage à VSD, voilà, encore une fois, nous ne devions pas nous arrêter, prendre un verre là où nous sommes rencontrés. Mais on redescendait de la ville de Vlaisley, et je dis à mon épouse, je voyais en face de moi l'établissement, et je dis, mais il faut que nous allions là. Et plusieurs fois, j'ai dit à mon épouse, pour de maintes exemples, en disant, mais nous devons aller là. À tel jour, nous devons faire ça. Et donc, voilà, j'ai été voilà, comme un canal qui me dit, je dois aller là. Alors, c'est vrai que je suis moins bavard que mon épouse, et souvent, elle était mon relais, mon aide pour ce genre de rencontres, de mise en relation. Mais voilà, le courant est passé immédiatement, nous nous sommes rencontrés.
Tout à fait.
Ça a été instantané. Nous avons parlé d'écriture, donc voilà, de différents écrivains, et spontanément, je vous ai dit, je viens d'écrire un livre qui va être édité. Et voilà, on s'est pris de passion pour cet échange. Et nous avons échangé nos coordonnées en se disant que le jour où il était définitivement édité, eh bien, nous reprendrions donc en fait contact afin de développer ça. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons ici aujourd'hui avec le plus grand plaisir, parce que voilà, c'est un fil. C'est
alors,
un fil qui s'est déroulé.
Frédéric, je vous interromps un tout petit peu. On redéroule le fil juste après un premier intermède musical. Je rappelle que c'est donc Une vie pour comprendre, vaste programme, et qui nous interpelle toutes et tous. C'est aux éditions Sidney Laurent sous la plume de Frédéric R. qui est avec nous jusqu'à midi sur Radion. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes avec notre invité.
Ce serait moi. On ne l'a pas choisi, mais j'ai pas rêvé, c'était là. J'inventerai tout un monde où tu m'appellerais mon amour. Je l'ai su à la seconde où tout s'est autour. Dans mes amours imaginaires, j'envoie des baisers virtuels. Aucune histoire n'est aussi belle qu'une idylle individuelle. Moi, mes amours imaginaires sont des lettres sans destinataire. Je je ne connais pas plus fidèle que mes amours imaginaires. Tu prendrais sûrement peur si tu voyais ce que j'ai dans le cœur. Ma vie de vue depuis le jour où je t'ai vu. J'inventerai tout un monde où tu m'appellerais mon amour. Je l'ai su à la seconde où tout s'est arrêté. Aucune histoire n'est aussi belle qu'une idylle individuelle. Moi, mes amours imaginaires sont des lettres sans destinataire. Je ne connais pas plus fidèle que mes amours imaginaires. Les pages que je ne tourne pas, je les arrache à tour de bras. Si tu t'envoles vers d'autres cieux, j'irai t'aimer dans d'autres yeux. Les pages que je ne tourne pas, je les arrache à tour de bras. Si tu t'envoles vers d'autres cieux, j'irai t'aimer dans d'autres yeux. Dans mes amours imaginaires, j'envoie des baisers virtuels. Aucune histoire n'est aussi belle qu'une idylle individuelle. Moi, mes amours imaginaires sont des lettres sans destinataire. Je ne connais pas plus fidèle que mes amours imaginaires.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous dans Wagon Livre. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Frédéric R. pour Une vie pour comprendre, paru il y a quelques mois. C'est un livre assez récent aux éditions Sidney Laurent. Frédéric, précédemment, au cours de notre échange, et je reviens sur ce terme, parce que ce terme m'interpelle, et je souhaiterais que celles et ceux qui nous écoutent en saisissent bien le sens. Vous avez parlé de guidance. Ça me semble essentiel. C'est tout de même un des moteurs, enfin c'est un terme clé dans votre vie et également dans le texte qui explique le déroulement de votre vie, le surgissement de certains événements, certaines rencontres. La guidance.
Oui.
Comment
oui.
définir ce terme ?
Alors voilà, c'est un terme que j'ai voulu un peu spécifique. Pour qu'il interpelle. Voilà, c'est l'objectif premier donc, qui est atteint, c'est que ce terme revient à maintes reprises, donc effectivement, dans l'ouvrage, avec, comment dirais-je, j'aurais pu utiliser le terme guide, tout court. Maintenant, ça veut dire que je contraignais, donc en fait, les lecteurs à accepter la notion de guide. Or, nous ne sommes pas tous prêts à considérer que nous avons des guides. J'ai utilisé ce terme guidance, qui m'a été un petit peu suggéré par moi-même, entre guillemets, voilà, par mes guides. Quelque part, c'est un petit peu ce lien, encore une fois, entre le céleste et le terrestre. Et le guide, c'est le céleste. Le céleste. Se guider, c'est terrestre. Être guidé, c'est terrestre. Eh bien, donc, j'ai utilisé ce terme de guidance qui me fait penser un peu à un canal. Voilà. C'est de se dire, donc, en fait, nous avons ce canal, cette connexion. Et si on a un peu d'humilité, eh bien, on peut souvent se rendre compte que des idées qui nous viennent, comme ça, des flashs, etc., ne sont pas forcément venues tout seuls. Mais là, encore une fois, il faut de l'humilité. On en a tous, mais il faut la construire, cette humilité. Il faut, effectivement, encore une fois, rabaisser les épaules, pour dire pourquoi pas. C'est ce que je note en l'occurrence, ce petit mot, ces deux petits mots, pourquoi pas, que j'utilise très fréquemment pour me permettre de n'avoir aucune idée reçue, de garder cette souplesse, cette ouverture.
Et ce pourquoi pas, c'est dans le milieu professionnel comme dans le milieu familial ou dans la sphère privée, amicale. Hein.
Voilà. C'est même un terme que j'ai enseigné à notre fils pour lui dire, mais pense toujours, quand on te suggère quelque chose, quand tu as un interlocuteur en face de toi qui émet son opinion, eh bien, ta première réaction doit être de te dire « pourquoi pas ?» Et ensuite, de compléter éventuellement avec ta vision, donc l'idée suggérée par ton interlocuteur. Chose qui est parfaitement intégrée, hein, soyons clairs. C'est assez formidable. Et donc voilà, c'est ce terme « pourquoi pas ?» Oui, restons dans l'ouverture.
C'est ça. Je me permets de vous lire justement sur ce « pourquoi pas ?» Frédéric, pardonnez-moi. Deux mots d'ouverture, deux mots laissant le champ ouvert, non plus à une confrontation, mais à un échange en douceur de nos idées, conduisant, quoi qu'il arrive, à une solution commune.
Oui, voilà.
Donc ça peut désamorcer des conflits, puis c'est aussi une grande forme de tolérance, d'écoute de l'autre. Pourquoi pas, mais je peux modifier le propos, le nuancer.
Oui, voilà, c'est ça, c'est garder cette... même sans énoncer ces deux mots, mais les avoir à l'esprit, en fait. C'est ça l'idée, c'est de se dire que tout le monde peut avoir raison. On a tous des points de vue différents qui divergent les uns des autres. Mais il faut coûte que coûte se dire qu'une grande partie de ce que dit notre interlocuteur peut être juste, que notre vision personnelle peut différer légèrement et qu'à par conséquent, quand on conjugue ces éléments, on se rend compte que peut naître une idée commune, la fameuse idée commune qui deviendra sûrement la meilleure parce qu'elle sera née de la tolérance et on aura créé à travers cette ouverture, on aura créé la tolérance de chaque interlocuteur et par conséquent, il n'y a pas de conflit.
Et cela rejoint ce que vous nommez la méthode des poupées russes. Cela m'a beaucoup plu d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est bon. Voilà, j'ai toujours, partant de cet esprit, comme j'ai adoré faire de la formation pour transmettre.
Parce que vous aviez créé un cabinet conseil en stratégie et formation commerciale.
Oui, tout à fait. Alors, c'est important de revenir sur ce sujet parce qu'effectivement, les commerciaux, pour moi, c'est avant tout des êtres humains qui doivent faire preuve de tolérance, d'ouverture, pour écouter. Parce que la première qualité d'un commercial, c'est l'écoute. Bon, si on écoute bien, on comprend. Mais c'est aussi, par conséquent, la qualité de tout être humain. Car chacun de nous devrait développer son écoute pour bien comprendre. La fameuse phrase quand nous étions enfants, « ne coupe pas la parole », est plus vraie que jamais. Si on coupe la parole, et comme je l'expliquais aux commerciaux que je formais, si votre interlocuteur énonce quelque chose, mais que vous lui coupez, ne serait-ce que vous vous privez du dernier mot de sa phrase, rien que le dernier mot de sa phrase pouvait changer totalement le sens de ce qu'il était en train de vous énoncer. Par conséquent, laissez-le parler jusqu'à ce qu'il ait terminé sa phrase, c'est de l'éducation déjà, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de comprendre ses propos. Et donc les poupées russes, j'avais créé un module de formation qui visait donc à partir de notre écoute et de considérer que nous n'avions pas forcément tout compris, d'extraire quelques éléments qui restaient douteux ou pas trop compréhensibles et donc de reformuler une question ouverte permettant de mieux comprendre et aussi de créer l'interaction avec son interlocuteur qui avait pour effet que lui se dit « Ah, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui écoute ». Et ça donnait toute la valeur de l'échange. Et voilà, j'ai continué, je me suis « amusé » entre guillemets avec ce concept des poupées russes où je considérais que tant que je n'avais pas bien saisi, je devais poser une question ouverte pour aller plus au fond de pensée.
Merci Frédéric. Je cite deux phrases isolées de votre texte sur lesquelles je vous demande bien évidemment de rebondir et Dieu sait si vous savez le faire, on l'entend bien. Nous ne sommes pas tous égaux face à notre passage sur Terre. Certains contemplent la vie au quotidien, d'autres en font un combat.
Alors, oui.
Alors, j'ai bien dit, c'est une phrase isolée.
Tout à fait. De l'ensemble. Alors, qu'il faut redéployer pour la remettre dans un contexte général. La vie, oui, enfin, c'est encore une fois, c'est ma vision, c'est mon expérience, c'est ce que et le bilan que je fais aujourd'hui à travers cet ouvrage. qui me permet de, qui me conduit plutôt, parce que me permet, ça veut dire que j'aurais une certitude, mais qui me conduit plutôt, donc en fait, à faire cette distinction. Il y a deux façons de vivre. Soit on vit la vie telle qu'elle se présente tous les jours et telle qu'on nous, parfois on nous conduit à mener cette vie. On n'est pas soi-même, vraiment. Et puis, il y a un moment donné, alors je dirais que quelque part, jusqu'à nos 20 ans, entre guillemets, tant qu'on est sous la directive de nos parents, et c'est logique, on a été élevé, donc avec d'une certaine façon, on est quoi que l'on veuille, on est dans cette voie-là. Ensuite, il nous appartient de faire le reste. Nos parents nous ont donné effectivement l'ouverture, le début du parcours, avec les valeurs qu'ils avaient à transmettre. Et ensuite, c'est à nous de se dire que nous avons notre propre parcours à faire. On ne doit pas répéter l'histoire, on ne doit pas suivre le chemin qui nous était édicté, parce que c'est notre vie. Nous sommes tous des individus sur Terre, donc individuels, nous devons gérer notre propre vie et nous laisser un petit peu guider. Je rebondis encore sur ce terme de guidance. C'est là aussi d'écouter les petits messages que nous recevons, parce que je vais utiliser ce terme de message, ces messages qui vont nous permettre d'aller là où nous devons aller.
Mais écouter les messages, pour les accueillir, il faut aussi un peu s'émanciper éventuellement du poids d'une éducation trop lourde. Vous en parlez quand même au début. Alors il faut dire, on ne peut pas tout dire, je ne peux qu'inviter nos auditrices et auditeurs à se procurer une vie pour comprendre, mais vous avez eu de graves problèmes de santé à la naissance qui ont généré chez vous une sorte d'aphasie, puisqu'en fait vous ne pouviez pas parler. C'est à partir de l'âge de 5 ans que vous avez commencé à articuler des sons, donc il a fallu aussi travailler pour retrouver un langage correct et être totalement compréhensible. Il y a le poids de votre mère. Alors vous parlez de la reine mère souvent. J'ai l'impression que c'est péjoratif. En tout cas, d'une mère un peu tyrannique, avec une éducation toute puissante et qui tout de même a plaqué sur vous et vos frères peut-être aussi une culpabilité. Parce que je trouve très intéressant, vous l'écrivez, c'est un peu plus tard dans le texte, vous dites la culpabilité est un véritable fléau de notre époque. Et effectivement, quand on a le poids familial notamment d'une culpabilité, c'est très difficile de l'enlever pour se sentir plus léger et continuer son chemin de vie.
Oui. Alors,
je mélange, j'espère ne pas être trop confus et mélanger les choses, mais...
Non, du tout. Mais c'est qu'en même temps, je dirais que bon, ce n'est pas péjoratif d'avoir nommé ma mère, mais la reine-mère. C'est seulement pour désigner un excès. Un excès, donc, effectivement, de directive. Telle qu'elle-même me l'a dit un jour, j'ai toujours décidé de tout. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Alors certes, ça permet d'emmener ses enfants là où on souhaite qu'ils aillent, mais ça lui appartenait et ma vie, je devais la reprendre en main. Alors oui, j'ai eu de nombreuses personnes ou magnétiseurs que j'ai pu rencontrer me disent « mais je reviens de loin ». Oui, et c'est merveilleux de revenir de loin, parce que ça veut dire que le parcours a eu de nombreux obstacles, obstacles que j'ai dû franchir et qui m'ont permis de gravir ces marches les unes après les autres pour pouvoir justement encore mieux comprendre qu'une autre personne. Et je pense qu'il faut vivre des choses, oui. Il faut vivre des choses, les comprendre pour pouvoir continuer à gravir. Au-delà de ça, je dirais que cette notion de culpabilité, oui, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous faisons vivre aujourd'hui l'humain sous une chape. Encore une fois, c'est une vision qui m'appartient, mais je ne peux que l'énoncer, parce que c'est quelque chose qui m'énerve un peu au quotidien, de percevoir nos concitoyens sous le joug de quelque chose, d'un être, d'une décision, d'autrui. L'être humain perd sa liberté de penser. Et ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est... et que les gens comprennent, la culpabilité doit disparaître. C'est un poids, c'est un fardeau colossal.
Que la religion catholique a aussi utilisé.
Absolument.
Parce que d'ailleurs, quelque part aussi, vous avez un peu mis de côté l'éducation catholique, fortement ancrée chez votre mère, vous avez mis de côté la religion catholique.
Oui, Oui, tout à fait. Après le décès de mon frère, effectivement, il y a des choses que je n'ai pas acceptées et j'ai considéré qu'il y avait sûrement autre chose. Voilà. Et c'est, oui, c'est bien que j'ai mis ça de côté. La religion catholique, voilà, c'est un cheminement. Si on lit bien les textes dans les entrefilets, il y a de très belles choses qui sont
Oui.
écrites, il y a des réalités. Mais telle qu'elle est utilisée envers l'humain, eh bien, c'est très dangereux
Et
parce
c'est valable
que
pour d'autres religions également,
toute
non?
religion, toute
Je
religion,
pense.
c'est conduire les gens. Et puis, je notais l'anecdote du prêtre qui veut coûte que coûte qu'on ait fait des péchés, quoi. Même si on en est conscient de ne pas avoir fait, on creuse au plus profond de notre mémoire pour chercher quelque chose qui pourrait avoir été mauvais. Et ça, on ne peut pas. On peut pas. Je n'accepte plus, qui plus est aujourd'hui, qu'on puisse fonctionner. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mon fils, mais encore une fois, c'est quelque chose que je lui ai encore répété dernièrement. Je n'ai pas de culpabilité. On ne culpabilise pas. On suit sa route, on va là où nos guidances doivent nous emmener. Encore, je remets ce mot effectivement à l'avant parce que il faut écouter ces messages. Et pour ça, oui, effectivement, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur tout cet environnement, que ce soit la religion, que ce soit les médias, que ce soit enfin, tout ce qui nous conduit à penser autrement que ce que nous pourrions penser si nous étions apaisés.
Oui, ou la création des désirs par le biais de la publicité. Si tu n'as pas le dernier téléphone
Voilà.
portable, tu n'existes pas. Or, on peut exister sans le matériel, sans tomber dans ce piège grossier
Ouais.
qui ruine beaucoup de gens d'ailleurs.
Voilà.
Enfin, le
Et
portefeuille et l'esprit
je pense qu'il
également.
faut chaque auditeur et chaque lecteur de mon ouvrage, il lui suffit de réfléchir quelques instants, en se disant, mais de réfléchir à un moment d'apaisement de sa vie. Et quelles ont été les circonstances de cet apaisement? Et chacun pourra imaginer et se voir tout simplement assis dans une chaise longue au fond d'un jardin, à se surprendre à écouter les oiseaux. Et là, s'il repense bien à cet instant-là, eh bien, il réalisera que il a lâché prise quelques instants là, et que là, son cerveau fonctionnait normalement, et non plus sous l'emprise d'autrui ou autre. Voilà.
Frédéric, je suis très heureux d'entendre ces propos dans Wagon Livre parce que bon, c'est une émission littéraire, mais justement, votre écrit aborde des aspects qui, j'espère, vont nourrir la réflexion de celles et ceux qui nous écoutent. Alors, certains procèdent peut-être déjà ainsi, mais j'espère que ça va encourager certaines personnes à se procurer votre livre et aussi faire tourner dans leur tête vos réflexions. On va marquer un nouvel intermède musical. Je rappelle que c'est Frédéric R qui nous accompagne aujourd'hui dans votre wagon livre. Je rappelle le titre de son texte, Une vie pour comprendre, et c'est aux éditions Sidney Laurent. Et je rappelle que cet ouvrage ne comporte aucune tristesse.
Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas. joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change quelquefois. J'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre, de savoir pourquoi. Ce désaccord, un peu maladroit, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir, les vents dans le nord. Je voudrais tout savoir. Je voudrais tout savoir et voir dans le nord.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Une vie pour comprendre. Frédéric, vous êtes avec nous jusqu'à midi sur Radion. Vous déroulez votre parcours de vie, enfance, adolescence, début professionnel. On ne peut pas évidemment parler de tout. Il y a l'amour, une femme qui rentre dans votre vie. Et puis, il y a le désir légitime pour tout couple d'avoir un enfant. Bon, difficulté pour le couple à avoir un enfant. Et un jour, vous êtes sur une plage avec votre épouse et tous les deux, en même temps, vous avez la même réflexion, le même propos. Et si nous adoptions un enfant ? Et j'aimerais que vous nous parliez de cette étape de l'adoption parce que vous nous amenez au Vietnam, donc quelques pages exotiques, brouhaha, tumulte de cette Asie fascinante. Parlez-nous un petit peu de ce... Alors, pas trop longuement parce qu'il y a d'autres aspects encore et le temps passe très vite avec vous. L'adoption de cet enfant au Vietnam...
Oui, parce que ça,
qui n'est pas anodine. Là aussi, il y a beaucoup de choses troublantes.
Alors c'est quelque chose de merveilleux. Déjà l'adoption en soi, c'est quelque chose de merveilleux. L'enfant, un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Mais le cheminement que nous avons eu, moi je dis haut et fort, nous avons été conduits jusqu'à notre fils, en fait. Alors oui, vous rappeliez cette anecdote de cette décision. Qui n'est quand même, ce qui n'est pas une anecdote en fait, hein. C'est l'adoption, voilà, elle m'avait effleuré l'esprit à 2-3 reprises. J'avais rencontré une personne qui avait adopté 3 enfants et voilà, tel qu'il l'avait vécu, ça ne me correspondait pas. Donc nous ne parlions plus d'avoir un enfant, nous n'avions même plus ce sujet et nous ne parlions absolument pas d'adoption. Voilà, on s'était un peu, voilà, c'était un consensus qui s'était mis en place et on vivait notre vie. Et ce jour-là, effectivement, nous avons eu un couple d'Asiatiques avec ses enfants qui étaient face à nous, et avec une synchronicité remarquable qui est du millième de seconde, mon épouse et moi-même, nous nous sommes tournés l'un vers l'autre avec la même phrase qui est sortie simultanément, « Et si nous adoptions ?» C'est assez surprenant, quand même, assez joyeux, j'en ai encore des sanglots, parce que c'est... Je crois qu'on peut difficilement, on parlait de guidance, mais là je crois que nous avons été simultanément tous les deux guidés sur quelque chose de merveilleux. Et cette décision, voilà, c'était pas une décision, voilà, ça nous est venu, nous l'avons eu. Et donc dès le lendemain, nous entamions les démarches. Et sincèrement, jusqu'au jour où nous avons eu notre fils dans les bras, mais ça a été un parcours, mais... Nous avons été emmenés, conduits. Il n'y a pas d'autre terme.
Oui, vous l'écrivez, je suis convaincu, lorsque vous êtes donc au Vietnam, alors vous allez dans un orphelinat, l'orphelinat de Thu Duc,
oui,
c'est cela ?
Oui, Thu Duc.
Alors, il y a une fausse joie, il y a un premier petit garçon qu'on met dans les bras de votre épouse et qui se prénomme Quan. Et en fin de compte, votre épouse pense que ça pourrait être l'enfant... qui va vous suivre en France, et puis là, vous apprenez, ah ben non, mais il n'est pas pour vous, une famille américaine l'a adopté.
Oui.
Et vous avez la certitude, la conviction plus précisément, vous lui dites à un moment, je suis intimement convaincu que notre enfant, notre futur enfant est là.
Oui,
il y a ce passage aussi. Alors, il y a la messe dans la cathédrale de Ho Chi Minh Ville.
Beaucoup, beaucoup d'éléments sur ce parcours, effectivement. Mais
on développe un petit peu.
Oui, tout à fait.
Sauf si vous ne voulez pas trop y revenir, mais.
Si, je peux.
Parce que c'est un temps fort.
Oui, c'est très fort. D'ailleurs, je pense que vous l'entendez de ma voix. C'est toujours très fort. comment dirais-je, le, oui, nous avions cet enfant, son Kwan, ce petit garçon qui avait été mis dans les bras de mon épouse, et nous en sommes occupés durant 2-3 jours, je ne sais plus très bien, et comme, voilà, mais comme nous étions présents à l'infirmerie, donc on s'occupait un peu de tous les enfants, et plus particulièrement du coup donc de Kwan, et mon épouse me dit, mais penses-tu que Kwan est adoptable? Et bien, j'écoute, dès demain, si nous croisons donc les sœurs, directrices de l'orphelinat, je poserai très clairement la question. Et donc, oui, j'ai posé la question. Et la réponse a été presque une sentence, puisque donc, mon épouse avait Kwan dans les bras, et qu'une des sœurs donc, lui a pris Kwan des bras, elle l'a posé dans son lit, en lui disant Kwan est adopté par des Américains, et elle s'en est allée. Donc, mon épouse l'a très mal vécu, moi aussi, mais c'était effectivement très compliqué. Et ce même soir, quand nous sommes partis de l'orphelinat, nous avons croisé donc, en fait, la deuxième sœur directrice, donc sœur Marie-Pierre, et nous avons discuté quelques instants sous le préau, et je lui dis, mais sœur Marie-Pierre, parce qu'elle nous disait, mais allez voir dans d'autres orphelinats, et je lui ai spontanément répondu, mais sœur Marie-Pierre, nous reviendrons, je suis intimement convaincu que notre enfant est ici. Voilà, et nous sommes partis là-dessus. Et à partir de cet instant-là, mon épouse, qui était quand même pas bien du tout, donc ne souhaitait plus revenir à cet orphelinat. Nous avons entamé d'autres démarches dans d'autres orphelinats. Le week-end est arrivé, et voilà, nous savons, je dirais qu'on se prenait pas, parce que nous étions vraiment là pour cette adoption, et donc on n'avait pas l'esprit à faire du tourisme, du tout. Donc on errait plus qu'autre chose, ce qui nous a conduit à arriver, donc en fait, à la cathédrale, et ça a été... assez particulier, je dirais, puisque la cathédrale était bondée. Il y avait du monde jusque sur le parvis, donc en fait, porte ouverte, les gens écoutaient la messe depuis l'extérieur. Nous sommes arrivés, nous avons été presque happés vers la cathédrale. Je reviens encore à cette notion, c'est que nous avons été emmenés, tout comme je disais, vers vous, vers l'autel. Nous avons été guidés à cette guidance qui revient. Et nous sommes arrivés là, et c'est quelque chose d'incroyable.
La foule s'écarte pour vous laisser passer.
Oui. Cette foule cathédrale, les gens se sont ouverts, ça s'est ouvert. Et nous sommes rentrés spontanément, parce que les Vietnamiens sont merveilleux, avec ce sourire, nous ont ouvert cette haie, en fait, ni plus ni moins. Et nous sommes entrés dans la cathédrale. Il y avait 2 chaises disponibles. Pas une, pas trois, 2 chaises disponibles. Nous sommes allés tout droit donc, à ces chaises qui étaient sur la gauche, et nous avons participé à l'office.
Avec une grande sensation d'énergie ressentie.
Alors, oui, à un instant T, j'ai ressenti une énergie qui m'a traversé comme en diagonale, si je puis dire. Et là, je me suis tourné vers mon épouse qui avait les mêmes sensibilités. Et je lui ai dit, mais n'as-tu pas ressenti quelque chose? Je lui ai dit, si, on a eu cette sensation d'énergie qui est passée. Bien, le dimanche est terminé. Le lundi passe, nous sommes allés, donc effectivement, continuer nos démarches ailleurs. Alors que nous ne devions plus retourner à Tuduk, et le mardi matin, au réveil, tel un robot, entre guillemets, je me suis assis sur le bord du lit, et j'ai dit spontanément à mon épouse, avec une façon de le dire qui fait que c'était incontournable, j'ai dit à mon épouse, nous devons retourner cet après-midi à Tuduk, donc l'orphelinat Tuduk. Et donc, chose que nous avons fait, le cheminement, sachant que les sœurs étaient toujours très difficiles à voir, c'était très rare de les voir. Et là, le cheminement fait que ce jour-là, nous sommes allés, nous avions nos motopousses qui nous emmenaient. La circulation était telle que nous avons mis plus de temps. Du moins, c'était le temps nécessaire. En conclusion, aujourd'hui, c'était le temps qu'il fallait pour aller là où nous devions aller. Et arrivé à l'orphelinat, on franchit le portail et elles étaient là, toutes les deux, juste derrière le portail. Ce qui était rare de voir ensemble d'une part et rare de les voir en général. Et là, spontanément, j'ai discuté quelques secondes avec elle en leur disant que j'ai décidé de repartir le jeudi pour m'occuper quand même de mes affaires et que mon épouse, elle, du coup, restait sur place autant qu'il le faudra et que si elles avaient des courriers emmenés en France, envoyés en France, je m'en occupais, etc. Et là, quand je leur ai dit que j'allais partir, elles ont discuté en vietnamien, donc là, bien sûr, je ne comprenais pas, nous ne comprenions pas, et elles nous ont isolés dans une petite pièce, voilà, sachant qu'il n'y avait jamais d'adoption l'après-midi. Tous les enfants qui étaient confiés, c'était les matins. Et nous sommes arrivés là, l'après-midi, et elles nous ont isolés. Et elles ont mis quoi, 10 minutes, 15 minutes, je ne sais pas, parce que la notion du temps a disparu. Et elles sont revenues, donc en fait, avec notre fils dans les bras, en disant qu'elles voulaient que j'en fasse sa connaissance avant de partir. Donc là, vous imaginez le choc. Et voilà. Et donc, c'est toute une... Encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons été conduits jusqu'à notre fils. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est le plus bel exemple que je mets en avant dans mon livre, pour que les gens réalisent qu'on ne peut pas broder autour d'une histoire comme celle-ci. C'est un peu la pierre angulaire du livre. Mais c'est aussi pour que les gens comprennent que tout le reste, tout ce que j'énonce comme étant des guidances, des choses qui nous ont emmenés, mon épouse et moi, ou moi seul, mais c'est que ça nous a été emmenés vers quelque chose, parce que j'ai l'humilité de le dire aujourd'hui, oui, j'ai été conduit.
Et grand intérêt pour celles et ceux qui vous liront, parce que ça nous met aussi sur des chemins de réflexion personnelle. Oui. Ce qui était mon cas aussi. Je pense parfois essayer de comprendre ma vie, d'analyser un petit peu les rencontres, ce qui m'y arrive. Mais votre parcours de vie écrit avec beaucoup de modestie, hein, très souvent vous dites, mais ça c'est un point de vue personnel, ça n'engage que moi, hein, vous n'affirmez pas, vous n'êtes pas du tout péremptoire, vous êtes d'une grande humilité par rapport à ce que vous déroulez. Déjà, vous vous mettez un petit peu à nu aussi, hein, c'est pas oui, facile non plus. Vous auriez pu vous censurer, or vraisemblablement vous ne le faites pas systématiquement, mais dans l'intérêt de la lecture, et je crois dans l'intérêt aussi d'aider d'autres personnes peut-être à mieux comprendre ce qui leur est arrivé. Frédéric, on pourrait faire une série d'émissions. On marque un nouvel intermède et dernier intermède musical, et puis nous revenons bien sûr devant le micro pour un dernier échange. Je rappelle que c'est Frédéric R. qui nous accompagne. Son texte « Une vie pour comprendre » est disponible aux éditions Sidney Laurent. Et on le retrouve juste après la petite virgule musicale que nous vous offrons.
Il faut que ça transpire encore dans le bordel.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Une vie pour comprendre. Frédéric, encore un grand merci d'être avec nous en cette fin de matinée devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Beaucoup d'aspects très riches, profondément humains, intellectuels et réflexifs dans cet écrit personnel tout de même. Ne revenons pas sur la guidance, je pense que vous l'avez suffisamment développée pour celles et ceux qui nous écoutent. Il y a quelques réflexions que je vous soumets et je vous demande quelques commentaires les plus brefs possibles. À un moment, c'est peut-être suite à l'adoption donc, de ce petit garçon au Vietnam, quelqu'un vous dit, vous avez les larmes aux yeux, vous pleurez, vous vous effondrez, quelqu'un vous dit, un homme ça ne pleure pas, un homme ça ne pleure pas. Si, un homme, ça pleure, selon vous, ça peut pleurer.
Oui, depuis je m'y suis autorisé. Oui, oui, tout à fait, un homme, ça pleure pas, ça, c'est effectivement les diktats familiaux donc de ma mère, effectivement, c'est ce qu'on pouvait entendre. Et qu'au décès de mon frère, c'est ce qui m'a bloqué, toutes les émotions que je pouvais avoir, et c'est terrible, parce que ce sont des poids, on ne fait pas son deuil, en fait, dans ces cas-là. Et depuis, et je pleure, et j'en suis très heureux.
Alors, il y a un mot aussi que vous utilisez, et ça, c'est réjouissant. Alors, moi, je l'ai interprété au sens étymologique, mais c'est le mot enthousiasme, entheos, c'est-à-dire avoir Dieu en soi, mais on peut avoir autre chose en soi, et ce qui me semble quand même vraiment fondateur de votre parcours, et de votre, de mode de vie, mode d'appréhension de sa propre existence et de celle des autres, c'est que vous mettez en avant le fait qu'il y a une conjonction nécessaire, mais vous l'avez dit, entre le terrestre et le céleste, mais entre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire quand même que l'esprit et la réflexion doivent pleinement jouer leur rôle.
Oui.
Nous permettre aussi de nous conduire sur le chemin du bonheur et de la sérénité, me semble-t-il.
Oui, parce que ça part du cerveau. C'est déjà une volonté. Alors, c'est une prise de conscience. C'est la volonté donc, de faire des arrêts sur image. Parce que c'est ça. C'est se poser. C'est quand on sent qu'on s'énerve, au lieu de s'énerver, on se dit non, j'ai aucune raison réelle de m'énerver. C'est cette prise de recul. Et que dès lors où nous sommes capables, donc du coup, de piloter, entre guillemets, ses pensées, je dis bien entre guillemets, parce qu'on ne va pas passer notre vie non plus à se piloter, mais à identifier, chercher le mot juste, à identifier les moments où il n'y a aucune raison d'être dans l'état où nous sommes, et là, je dis, mais je me pose. Et quand le cerveau se pose, et quand leur cerveau ordonne de se poser, tous les organes, et en l'occurrence le cœur, s'apaisent. Et le cœur, c'est l'essence même de la vie, et c'est l'ouverture, c'est l'amour vient du cœur, depuis la nuit des temps, en fait.
Et c'est cette règle vécue qui vous a amené à la peinture, parce que je tiens à dire que votre ouvrage est ponctué de quelques reproductions de peintures. Alors certaines sont en couleur, d'autres sont en noir, mais c'est aussi des choix réels. La peinture, vous parlez de votre peinture à caractère spirituel. Oui. Là aussi, vous êtes un peu guidé dans votre art.
Oui, je n'ai pas fait beaucoup de tableaux. Je suis pas artiste peintre. Je garde cette, encore une fois, beaucoup d'humilité. Les peintures que j'ai réalisées sont des flashs, des messages. Encore une fois, c'est ce que j'ai perçu, reçu. Et si on les regarde bien, en fait, ce sont que des tableaux qui. Quand je présente un tableau à une personne, je perçois immédiatement là où il en est, en fait. C'est très particulier. Alors, y a une personne qui va voir un tableau qui va dire « Oh, il est sombre !» Et l'autre personne qui va voir un tableau « Oh, il est plein de lumière !» Voilà. C'est toute la différence que l'on peut avoir de perception et de compréhension, encore une fois. En fait, ce sont des tableaux, aujourd'hui je le dis très clairement, qui passent du sombre, de l'obscurité à la lumière. Tous, si on le regarde de près, c'est ça, c'est tendre vers la lumière.
Et initialement, certains sont en noir et parfois vous rajoutez une petite touche colorée.
Oui, voilà.
Un peu plus tard.
C'est un tableau que j'ai cru terminer. Et puis non, dans un demi-sommeil, hop, j'ai la touche de couleur qui me vient à l'esprit et dès le lendemain, je mets cette petite touche de couleur qui vient compléter Et il faut dire même que aujourd'hui, j'ai des tableaux que j'ai faits il y a quelques années. Même aujourd'hui, quand je les regarde, alors chacun d'eux ont une petite phrase qui les accompagne. Mais moi-même, encore et encore, avec l'humilité qui m'appartient, eh bien, je regarde les tableaux et je dis, mais je comprends moi-même encore ce que j'ai peint. Je développe ce que j'ai peint. Parce que mon évolution fait que je les interprète moi-même, mes propres tableaux, encore différemment. Et ça, ça montre bien le parcours de vie et ce que nous devons prendre le temps de comprendre, d'observer et comprendre.
En fait. Frédéric, je vous remercie. On est au terme de l'émission. J'étais très heureux de vous accueillir parce que c'était aussi un peu le lien que nous avions scellé à Vézelay, cette rencontre un peu surprenante qui effectivement se réalise et débouche sur cette émission. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission qui est chère à mon cœur aussi et à mon esprit et que je partage depuis plus de 12 ans maintenant sur l'antenne de Radiol. Alors je voudrais terminer avec la citation d'un poète, Paul Éluard, qui disait, alors c'est une phrase que j'ai souvent citée, y compris devant mes élèves quand j'étais enseignant et souvent à des amis ou des rencontres amoureuses, Paul Éluard écrivait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et oui, je pense que pour nous, c'était un peu le cas, la rencontre à Vézelay et ce rendez-vous ici devant les micros de Radiol.
C'est ça. Et nous avons tous beaucoup de rendez-vous à tenir.
En tout cas, un texte, une vie pour comprendre votre texte, Frédéric R., qui suscite la réflexion, qui permet un retour sur soi, parce que vous avez partagé alors des moments douloureux, des souffrances, mais des joies et des enthousiasmes. Et c'est un texte, en tout cas,
énormément de joie.
très optimiste. Ouais. Et qui, par exemple, cette phrase écrite sous votre plume, bien évidemment, page 99, « Qui que nous soyons, nous recevons pour donner ». Et je crois que c'est une belle fin. C'est une belle fin. Et je crois qu'il faudrait que plus de gens puissent éventuellement partager en action et en mots de la gentillesse. Alors, bienveillant, je me méfie un peu de ce terme parce qu'il n'est pas toujours bien compris, mais de l'élégance, de la courtoisie, du respect, de l'écoute de l'autre et essayer de comprendre pour aimer.
L'élégance du mot, l'élégance du verbe, la science du langage le langage retranscrit ce que nous sommes. On ne peut pas se mentir. Vous savez, c'est comme dans la formation, nous parlions de la formation tout à l'heure, il y a certains cours pour la gestuelle. Je n'ai jamais enseigné la gestuelle parce que je considère que la gestuelle n'est que le reflet de ce que nous émettons. Elle est naturelle, cette gestuelle.
Oui, alors ça s'appelle la synergologie, l'étude effectivement de certains gestes, se toucher le bout du nez lors d'un entretien d'embauche, c'est pas forcément très, très bien.
Mais soyons nous-mêmes. Et je conclurai je le fais au terme de ce livre, sur l'amour.
Voilà. Oui, la dernière phrase qui clôt votre texte, je vous souhaite tout l'amour dont vous allez pouvoir vous nourrir et nourrissez-vous également du texte. Des préceptes, des suggestions, de réflexions et d'analyses que vous partagez dans ce livre intitulé « Une vie pour comprendre » de Frédéric. Alors Frédéric, c'est ICK à la fin, comme votre grand-père, je crois. C'est peut-être le prénom de votre grand-père. Frédéric R. aux éditions Sidney Laurent et qui a eu la gentillesse de venir nous rencontrer. C'est une histoire de rencontre entre nous trois.
Merci à vous, Yannick.
Merci, Frédéric. Bon congé de fin de semaine à vous ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs. Et bien évidemment, je vous retrouve samedi prochain, 11 juin, toujours à 11h, sur Radiol. Et si vous avez manqué cette émission ou si vous souhaitez la réécouter, bien vous vous rendez sur le site d'archives de Wagon Livre. Via cet outil tout de même fabuleux, quand on en fait bon usage, l'internet, www.yannickpetit.fr. Au revoir Frédéric.
Merci encore Yannick.
Avec grand plaisir. Au revoir à vous toutes et tous et à samedi prochain.
Merci.